Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. RFI vous informe et vous donne la parole. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur la présidentielle du mois d'octobre au Cameroun. Les grandes manœuvres ont commencé. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez et à tout de suite. À la une ce matin, le monde sous le choc et sans voix face aux propos de Donald Trump, le président américain qui veut prendre possession de Gaza. Déclaration faite aux côtés de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. David Thompson nous dit tout du plan Trump dans quelques instants. En RDC, le bilan des victimes des combats de la semaine passée à Goma, largement revu à la hausse. Au moins 3000 morts, selon l'ONU, qui souhaite ouvrir en urgence un corridor humanitaire. Et puis la Suède, en deuil, le pays qui a vécu la pire tuerie de masse de son histoire ce mardi, fusillade qui a fait 10 morts à l'ouest de Stockholm. Silence assourdissant après les propos fracassants de Donald Trump. Sidération générale ce matin, le président américain qui veut prendre contrôle de la bande de Gaza et ce n'est pas une décision prise à la légère, assure-t-il. Annonce choc faite cette nuit en conférence de presse aux côtés de Benjamin Netanyahou qu'il recevait ce mardi à la Maison Blanche. Une proposition qui pourrait changer l'histoire, affirme le Premier ministre israélien. Proposition mûrement réfléchie et préparée, David Thompson.
Il ne s'agit pas d'une parole improvisée. Donald Trump lit son discours au pupitre de la Maison Blanche. Il propose en pleine conférence de presse conjointe, aux côtés de Benjamin Netanyahou, que les États-Unis prennent possession de la bande de Gaza.
Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous y ferons du bon travail.
La déclaration sidère l'assistance, d'autant que Donald Trump n'exclut pas d'utiliser la force.
Si nécessaire, on le fera. J'imagine une possession de long terme.
Et en bon promoteur, le président américain rêve de projets immobiliers pour Gaza.
Le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. On a l'opportunité de faire quelque chose de phénoménal. Une riviera du Proche-Orient.
Quant aux habitants de Gaza, Donald Trump souhaite les relocaliser ailleurs, en Égypte et en Jordanie. Les deux pays ont déjà refusé, mais Trump est convaincu de pouvoir les faire changer d'avis.
J'ai le sentiment que le roi de Jordanie et le général d'Égypte vont ouvrir leur cœur et nous donneront la terre dont nous avons besoin pour faire cela, pour que les gens vivent en paix et en harmonie.
À ses côtés, même Benjamin Netanyahou semble dépassé par les paroles du président américain. Notre objectif, dit le Premier ministre israélien, est que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Mais le président Trump, dit-il, met la barre encore plus haut. David Thompson, Miami RFI.
Des propos qui ont seulement fait réagir pour l'instant les autorités palestiniennes, l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour, qui déclare que les dirigeants du monde devraient respecter les souhaits des Palestiniens. Le Hamas y voit une recette pour créer le chaos au Proche-Orient. Et pendant ce temps-là, l'accord de trêve entre le mouvement islamiste palestinien et Israël est entré dans sa deuxième phase, selon un porte-parole du Hamas. L'État hébreu qui a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar en fin de semaine pour en discuter. Autre titre de l'actualité internationale de ce mercredi 5 février en République démocratique du Congo. Le bilan des morts des affrontements autour de Goma largement revu à la hausse par les Nations Unies. Au moins 3000 personnes ont été tuées. De nombreux corps n'ont pas encore pu être enterrés dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Et les organisations humanitaires craignent désormais une recrudescence des épidémies. La crise humanitaire qui empire suite à l'afflux de milliers de blessés touchés lors des affrontements de la semaine dernière entre la FRDC et leurs alliés face au M23 soutenu par le Rwanda. Une campagne de don du sang est ouverte à Kinshasa depuis lundi au Palais du Peuple. Elle se prolonge jusqu'à la fin de semaine. Kinshasa, où le président de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une commission mixte entre les deux chambres du Parlement. Commission qui doit maintenant faire des propositions concertées pour une sortie de crise. C'est la première fois que la question sécuritaire du Nord Kivu était débattue avec tous les élus en plénière. Alexandre Apronjon.
Le président veut épargner des vies humaines,
a déclaré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe aux députés présents dans la salle. 500 élus conviés en session extraordinaire afin d'examiner la situation sécuritaire dans l'est du pays et surtout discuter des voies de sortie de crise. Pour le député de l'Ituri, Gratien Irachan, cela passe par le dialogue.
Je ne peux pas accepter que les gens continuent de mourir. Il faut donner la chance au dialogue, notamment avec tous ces groupes qui sont en train de se manifester à l'Est. On a eu ces processus de Nairobi, de Luanda, mais il faut approfondir et il faudra à un moment donné que notre gouvernement ne soit pas sur la défensive, tout simplement.
dialogue également pour l'élu de Goma, Hubert Furuguta, mais pas avec n'importe qui.
Tout ce qui peut nous amener à la paix est le bienvenu. Nous sommes prêts à tout. Mais ce qui me fait très mal, c'est le fait que le monde appuie l'ennemi à nous écraser, puis le monde nous demande d'aller aux négociations. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour sauver les peuples.
Le président de l'Assemblée a annoncé la mise en place d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui doit faire des propositions diplomatiques et politiques concertées pour une sortie de crise. Il a également assuré aux élus que le chef de l'État souhaite négocier, mais pas vendre le Congo. Alexandra Branchon, Kinshasa, RFI.
Le conflit dans l'Est de la RDC qui sera au cœur des discussions d'une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, réunion de crise ce vendredi. Et puis toutes nos informations à ce sujet à retrouver également dans notre onglet spécial. Rendez-vous sur le www.rfi.fr. RFI bientôt 9h06 ici à Paris, 10h06 à Kiev. Volodymyr Zelensky prêt à discuter avec Vladimir Poutine si nécessaire. Le président ukrainien s'est dit d'accord pour des négociations directes avec son homologue russe pour mettre fin à la guerre entre les deux pays lancée par le Kremlin il y a bientôt 3 ans. Déclaration faite hier sur la chaîne YouTube du présentateur britannique Piers Morgan. Des négociations qui pourraient se faire en présence de médiateurs. Les États-Unis et l'Union européenne pourraient participer au pourparlers. La pire tuerie de masse de l'histoire de la Suède, selon les mots du premier ministre suédois Ulf Kristersson. Et le bilan a été revu à la hausse ce matin. 10 morts en plus du tueur lors d'une fusillade dans un centre d'enseignement pour adultes. La police qui exclut pour l'instant tout motif idéologique. Une tuerie qui a eu lieu à Örebro, dans l'ouest du pays. Correspondance en Suède d'Otilia Ferré.
Il s'agit de la pire fusillade de masse de l'histoire de la Suède. C'est ce qu'a indiqué le premier ministre suédois lors d'une conférence de presse hier dans la soirée.
Ce qui ne devrait jamais arriver, c'est désormais passé, même en Suède. Nous avons assisté aujourd'hui à une violence incroyablement meurtrière contre des personnes totalement innocentes.
Le nombre exact de victimes n'est pas encore connu. Certains blessés sont encore dans un état grave. L'alerte avait été donnée à 12h30 ce mardi. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir des personnes s'enfuir en courant alors que retentissent de nombreux coups de feu. Selon la police, l'auteur de la fusillade est mort et selon les médias, il aurait retourné l'arme contre lui. Son casier judiciaire était vierge. Qui il était ou les motivations de son acte, ces informations sont pour l'heure encore inconnues. Les habitants de la commune de Örebro et les Suédois sont sous le choc et ont encore du mal à assimiler ce qu'il s'est passé. Jamais ils n'auraient pensé qu'un tel drame pouvait se produire ici. Les pensées vont aux victimes et à leurs familles, auxquelles le Premier ministre a, tout comme le roi, présenté ses condoléances. Otilia Ferré, Stockholm, RFI.
En France, le Premier ministre François Bayrou affronte aujourd'hui 2 motions de censure après son recours à l'article 49.3 sur le budget de l'État et sur le budget de la Sécurité sociale. 2 motions portées par la France insoumise mais vouées à l'échec. Le Parti socialiste et le Rassemblement national ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la censure. Réponse dans l'après-midi, le vote à l'Assemblée nationale est prévu aux alentours de 15h30, heure française. Le gouvernement, qui devrait donc se maintenir, et le budget présenté aussi, budget austéritaire qui prévoit plus de 23 milliards de baisses de dépenses publiques. Et parmi les coupes budgétaires, l'environnement est le plus pénalisé, Simon Rosé.
Face au dérapage budgétaire, il y avait déjà eu les 10 milliards d'euros gelés en février 2024, puis 10 nouveaux milliards à l'automne. À chaque fois, l'écologie et la transition environnementale avaient fait figure de cible de choix. Rebelote pour le budget 2025, la mission écologie est la plus touchée. Principale victime, les aides à l'achat de véhicules électriques. Elles ont été divisées par 3. Celles à la rénovation thermique des bâtiments sont presque diminuées de moitié. Leur enveloppe passe de 4 à 2,3 milliards d'euros. Le fonds vert conçu pour accompagner les collectivités locales dans leur transition écologique échappe au pire. Il aurait dû être amputé d'un tiers. Face à l'inquiétude des élus locaux, il conserve finalement son enveloppe de l'année dernière. Idem pour l'agence bio, dédiée à la promotion de l'agriculture biologique. Un temps menacé, elle sauve finalement sa peau. La politique de l'eau n'échappe quant à elle pas au coup de rabot. Son budget perd 100 millions d'euros. Au total, la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation à ses conséquences et la transition écologique perdent plus de 2 milliards d'euros dans ce budget. Alors que l'ouest du pays connaît encore de très importantes inondations et que les émissions de gaz à effet de serre françaises sont reparties à la hausse fin 2024.
Simon Rosé du service environnement de RFI. La magie de la Coupe de France pour terminer, qui a encore opéré hier soir en 8e de finale. Le héros du conte de fées s'appelait Ewen Jawen, le gardien de Dunkerque en 2e division française. Après avoir presque tout repoussé durant la rencontre contre Lille, il a vu son coéquipier Kaiteyan égaliser à la dernière seconde, match nul 1-1. Place au tir au but, et Ewen Jawen, 19 ans, qui en repousse 3 face au Dog. Il est même inscrit le dernier pour envoyer Dunkerque. En quart de finale, moi je vous laisse avec le super sub de RFI, il entre en jeu pour la fin de matinée. Juan Gomez qui chausse ses crampons pour appel sur Actu.
Merci beaucoup Martin Guez. À demain. dans la matinale, bien évidemment, 9h10 à Paris. Reste avec nous, dans 30 secondes, RFI vous donne la parole. Ce sont vos questions à la rédaction, suivies évidemment de vos réactions sur l'actualité. À tout de suite.